Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Alors, c'est l'heure de la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
Deux sujets s'imposent aujourd'hui. D'abord, le décès de Brian Mulroney. Quelle est sa vision constitutionnelle? Puis ensuite, évidemment, ce jugement incroyable de la Cour d'appel du Québec sur la loi 21. Donc, Brian Mulroney, c'était quel type de vision constitutionnelle selon toi?
Mais c'est clair que tout le monde va insister à juste titre sur sa vision de réconciliation entre Québec et le reste du Canada.
Oui, réparatrice, hein, c'est ça.
Réparatrice,
ouais.
Ce rêve d'une grande majorité de Québécois, là, une grande partie des indépendantistes le sont en vérité des fédéralistes déçus, pas tous, mais certains. Mm-hmm. Et il y a une grande partie des fédéralistes québécois qui aimeraient voir la fédération évoluer dans le sens des intérêts du Québec. Et je pense que c'est vrai que Pearson a fait des choses là, intéressantes à l'époque de Jean Lesage.
Dans les années 60, oui.
Il n'y a jamais personne qui a essayé d'aller aussi loin dans le sens des intérêts du Québec à Ottawa que Brian Mulroney. Ça n'a pas marché, mm-hmm. mais il a vraiment essayé. Il mm-hmm. a même essayé à deux reprises avec l'échec de Charlottetown. Puis mm-hmm. il faut se rappeler que c'est pas juste un échec, parce qu'il y a eu un moment où Brian Mulroney a eu un succès sur le plan constitutionnel. L'accord du lac Meech porte bien son nom. Les 10 premiers ministres des provinces s'étaient réunis au lac Meech, avaient donné leur parole. Donc là-dessus, ils pouvaient se dire mission accomplie. Peut-être que la naïveté aura été de faire confiance ensuite aux gens qui donnent leur parole et qui disent oui, on va le signer cet accord-là pour le Québec. Et on va le ratifier ensuite dans nos parlements.
Oui, parce qu'une fois signé, il fallait attendre le délai que la Constitution prescrivait, c'est-à-dire trois ans.
Trois ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, des alternances. Et surtout, c'est là qu'il faut se rappeler du contraste.
Les changements de gouvernement, oui.
Surtout, des gens qui n'aimaient pas cette vision de réconciliation entre le Québec et le Canada. Donc, un certain Pierre Trudeau qui sort de sa retraite, qui donne des entrevues, qui sort de sa réserve pour bousiller et attaquer frontalement cette réconciliation.
Il avait même parlé du risque de déportation des anglophones du Québec. C'est fou, là. Les gens n'ont pas idée à quel point la cabale de Trudeau a été tous azimuts là, contre l'accord du lac Meech d'abord, puis ensuite contre Charlottetown.
Et au moment de la démission de John Turner au Parti libéral du Canada, un candidat, Jean Chrétien, qui fait campagne contre cette tentative de réconciliation. Et donc, c'est là qu'on prend toute la mesure de la vision de Brian Mulroney lorsqu'on l'oppose à celle des Trudeau, Chrétien. Et probablement que Brian Mulroney aurait réussi s'il n'avait pas été, fait l'objet de ce sabotage, il faut bien l'avouer. Parce que ce sont des premiers ministres libéraux, hein, provinciaux, qui vont être les premiers à remettre ça en question. Un certain Frank McKenna qui veut faire parler de lui à l'échelle de l'ensemble du Canada, proche de Jean Chrétien, qui remet ça en question, pour ensuite voir l'ampleur de ce qui du drame qui vient
du
de créer,
monstre.
Finit par se rallier. Mais Clyde Wells, lui, ne se ralliera jamais. Et on voit là-dessus qu'il y a un jeu partisan, idéologique, où les fidèles de Pierre Trudeau ont vraiment saboté l'accord du lac Meech. Mais sinon, sur le plan constitutionnel aussi, la vision de Brian Mulroney, c'est la vision d'une constitution qui est un pouvoir incarné dans des personnes qui se réunissent. Tout est humain avec Brian Mulroney. Le pouvoir constituant, on peut le voir. Il est dans un grand hôtel, un centre des congrès, il fait des conférences de presse. On a toute la fédération réunie qui discute, qui délibère. Et cette idée de la politique qui se fait d'abord et avant tout dans des relations humaines, nous, on l'a vécu à l'Université Laval. La promotion 1963, la promotion de Brian Mulroney, c'est une promotion exceptionnelle. des carrières inimaginables. Bon, là-dedans, il y a des gens comme, oui, Brian Mulroney, mais il y a Lucien Bouchard, Bernard Roy, le sénateur Peter White et plusieurs autres. Mais à la fin, quand on réunit ces diplômés-là, ils nous disent toujours la même chose. On a eu des carrières exceptionnelles parce que Brian a été là pour nous. Ben, d'une certaine manière, certainement que Lucien Bouchard aurait fait son chemin dans la vie.
Bon, il y a peut-être des grands professeurs aussi. Je pense à André Patry en droit constitutionnel et en droit international.
Qui a évidemment été mentor de plusieurs de ces personnes-là, en effet.
Je le sais parce que mon propre père était dans cette promotion, ben oui. 63, à l'Université Laval.
C'est la promotion de la crème de la crème, où ils ont été nombreux à découvrir la vie politique, la vie constitutionnelle. Ils organisaient, dans ces années-là, ils ont organisé un grand congrès pan-canadien sur l'avenir constitutionnel du Canada et les relations Québec-Canada à Québec. C'était comme la société civile, un paquet de jeunes, beaucoup de ces gens proches de Brian Mulroney qui avaient organisé ce congrès-là. Et donc, dans l'un des grands dilemmes de la théorie du droit, le droit, est-ce que c'est un acte de volonté ou c'est un acte de connaissance ou de raison? Et souvent, ben, la volonté est incarnée par le politique, hein, qui est capable de volonté. Et la raison, la connaissance est souvent plus incarnée par la jurisprudence. Mais c'est clair que Brian Mulroney était davantage dans une conception du droit marquée par la volonté. Puis il faudra pas minimiser son bilan sur le plan des libertés. Il a fait ce qu'il fallait faire avec la loi sur les mesures de guerre. Il en a adopté une autre, la loi sur les mesures d'urgence, qui est un exemple à l'échelle de la Fédération, mais même ailleurs dans le monde, et même dans des dossiers, évidemment, comme l'apartheid, ça touche évidemment à les libertés. De la façon dont il a géré le dossier de l'avortement, c'était pas facile dans sa famille politique. Donc, le bilan en matière de liberté aussi, il faudra le faire éventuellement.
Bien. Alors, maintenant, cette décision, Patrick, sur la loi 21... la Cour d'appel, on en avait parlé un peu avant et tu t'attendais quoi à des jugements déclaratoires, peut-être même à l'utilisation du partage des pouvoirs pour faire en sorte que la loi soit comme interdite ou pas, comment on dit ça, rendue inconstitutionnelle. Alors, c'est surprenant,
non? Ma grande surprise, oui, le fond, mais surtout le ton. Beaucoup plus neutre, beaucoup plus technique. Froid, rationnel. Contrairement au juge de première instance, on résume la loi, on la comprend. On n'en fait pas la promotion, mais on est prêt à admettre la petite part de noblesse que comporte la laïcité. On explique à bien des égards, ça converge avec bien des aspects du droit canadien, puis qu'il y a aussi des petites différences. Donc, on donne leur juste sur ce qu'est la loi. Le juge de première instance définissait la laïcité comme tout ce qui était l'anti-religion. Wow, ça me semblait un peu simpliste. On est beaucoup moins dans des raisonnements manichéens. C'est vraiment un ton assez impressionnant. On ne préjuge pas non plus du résultat que l'on pourrait avoir éventuellement si on avait une contestation de la loi sans dérogation. On dit même là qu'il y a un commencement de preuve en droit comparé. On donne une phrase à un moment donné pour rappeler que, oui, il y a des enjeux de liberté de religion, mais il y a aussi des enjeux d'égalité des sexes, là, comme si on faisait un petit cadeau aux féministes universalistes. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et contrairement au juge Blanchard, c'est pas une décision qui rajoute de l'huile sur le feu. C'est une décision qui, à mon sens, peut renforcer. T'sais, dans nos jeunes années, Antoine, on parlait de paix linguistique après des années de déchirement.
Ah oui.
Mais si un jour il devait arriver une paix en matière de laïcité, ça prend un certain nombre de conditions. Puis une décision comme hier, c'est un gros morceau. Une reconnaissance par les tribunaux que c'est peut-être pas ça qu'ils préfèrent, mais qu'on a le droit d'adopter ça. C'est une condition importante. Il y en a d'autres, éventuellement une alternance. Hein, quand Robert Bourassa a accepté la loi 101 une fois au pouvoir, ça a joué dans le renforcement du consensus. Mais dans les étapes à franchir pour établir cette paix sociale autour de la loi 21, c'est une étape assez importante et c'est une grosse, grosse, grosse défaite pour l'article 23 et les droits de la minorité anglophone, dans la mesure où le juge Blanchard avait en ces matières faire preuve de tellement d'audace, tellement de créativité. Il avait tiré l'élastique au maximum et c'est là que la Cour d'appel est très sévère avec le juge de première instance.
Oui.
On, on, on lui fait pas juste une leçon de droit, là. On lui rappelle à un moment donné qu'il y a des limites à étirer l'élastique au-delà du bon sens. Et c'est important parce qu'il se passe beaucoup d'autres.
Parce qu'il faut rappeler que le juge Blanchard, il prenait cette notion de d'autonomie, si on veut, des commissions scolaires de la minorité, puis il disait que ça, au fond, la loi 21 venait en choc avec ça, alors qu'il n'y a rien de linguistique dans la loi 21.
Le droit d'avoir ses écoles, le droit d'avoir des représentants de la communauté au sein des écoles devenait le droit d'échapper aux lois communes du Québec. Donc là-dessus, il y a un gros revirement. Oui.
Très bien. Puis la disposition de dérogation, on en a parlé longuement avec Louis-Philippe Lampron et Guillaume Rousseau dans l'autre partie de l'émission, mais peut-être un petit mot, 30 secondes là, sur cet appui, même cette adhésion à une certaine notion de la dérogation.
Bien, en fait, on dit les choses telles qu'elles sont. Et là-dessus, le juge met la table, les juges mettent la table pour la Cour suprême. Parce qu'ils font pas juste dire « on a le droit de déroger », ils disaient déjà le juge de première instance. Ils expliquent surtout que, et c'est là qu'ils sont le plus convaincants, qu'il n'y a rien de nouveau dans le débat. Que tous les arguments pour et contre la dérogation, ils étaient présents en 1981, ils étaient présents au moment de l'arrêt Ford. Et c'est ça qui est important. La plus préventive et la plus systématique des dérogations, c'est celle dont il était question dans l'arrêt Ford. Le gouvernement Lévesque avait dérogé dans toutes les lois. Et donc là-dessus, là, c'est pas juste vous avez le droit, c'est vous avez le droit et voici l'argumentaire pourquoi il y a absolument rien de nouveau. Là, là-dessus, la décision de la Cour d'appel, qui était un peu prise en sandwich, hein, entre une réponse au juge de première instance, mais rendue par des juges qui savent qu'après, ça va être débattu par d'autres, cherche vraiment à verrouiller la réouverture d'un tel débat.
Merci infiniment, Patrick Taillon, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle.